Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Nous allons parler des sanctions que les États-Unis viennent de prendre contre le Rwanda. Comme vous le savez, les États-Unis viennent d'imposer des sanctions contre les forces de défense rwandaises RDF ainsi que 4 de leurs officiers supérieurs. Ils l'ont annoncé le lundi 2 mars 2026. Washington nous reproche à ces derniers leur soutien opérationnel direct au M23 et à ses alliés dans l'est de la République démocratique du Congo. Parmi les personnes visées figure Vincent Nyakarundi, les chefs d'état-major de l'armée rwandaise ainsi que les chefs d'état-major de la défense. En vertu de cette décision de Washington, les avoirs des personnes et de l'entité désignée relevant de la juridiction américaine sont donc bloqués. En outre, les ressortissants et entreprises américaines ne peuvent pas effectuer des transactions avec elles. Selon le communiqué du département d'état américain, cette décision intervient 2 mois seulement après la signature le 4 décembre 2025 de la déclaration conjointe des accords de Washington pour la paix et la prospérité. Quelle lecture faire des sanctions américaines contre la RDF 2 mois après la signature des accords de Washington entre la RDC et le Rwanda? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Marius Mubalama. Il est analyste sociopolitique et proche du docteur Denis Mukwege. Il est président national du mouvement Congo des valeurs Koval en sigle. Bonsoir Marius Mubalama.
Bonsoir Monsieur Guimaté.
Et en ligne, Henri Pacifique Mayala, il est coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Bonsoir Henri Pacifique Mayala.
Bonsoir Monsieur Guy.
On devait aussi avoir Maître Joseph Odunia Ruyenzi dans cette émission, mais on n'arrive pas à les joindre à cause des problèmes liés, n'est-ce pas, au réseau téléphonique. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, les États-Unis viennent d'imposer des sanctions contre les forces de défense rwandaises RDF ainsi que contre 4 de leurs officiers supérieurs. Ils l'ont annoncé le lundi 2 mars 2026. Washington reproche à ces derniers leur soutien opérationnel direct au M23 et à ses alliés dans l'est de la République démocratique du Congo. Des points avec Benjamin Mudumbi.
Dans un communiqué du 2 mars 2026 signé par le président d'État américain, les États-Unis imposent des sanctions aux forces de défense rwandaises et à 4 de leurs officiers supérieurs pour leur soutien opérationnel direct au mouvement du M23 et à ses affiliés dans l'est de la République démocratique du Congo. À titre de rappel, quelques jours après la signature sous l'égide du président américain Donald Trump, le 4 décembre dernier, de la déclaration conjointe historique des accords de Washington pour la paix et la prospérité avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et le président rwandais Kagame, des combattants du M23 soutenus par le Rwanda se sont emparés de la ville d'Uvira dans le site Kivu en violation flagrante des accords de Washington. Le M23, entité sanctionnée par les États-Unis et l'ONU, est responsable d'horribles violations des droits humains, notamment des exécutions sommaires et des violences contre des civils, y compris des femmes et des enfants. Le soutien continu des forces de défense rwandaise et de l'air haut responsable a permis au M23 de s'emparer des territoires souverains de la RDC et de poursuivre des violations graves. Le communiqué souligne que les États-Unis réaffirment leur soutien indéfectible à la paix et à la stabilité dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région. Les accords de Washington marquent un tournant décisif pour la région des Grands Lacs, ouvrant la voie à une nouvelle ère de paix, de coopération et de prospérité entre pays voisins. Cette action démontre la détermination des États-Unis à respecter les accords de Washington. Comme l'a clairement indiqué le président Trump, les États-Unis sont prêts à utiliser tous les moyens à leur disposition pour garantir que la RDC et le Rwanda honorent les engagements de cet accord historique.
Merci à vous Benjamin Mudumbi. Réagissant à ces sanctions, le Rwanda a regretté lundi des sanctions américaines qu'il juge unilatérales, estimant qu'elles déforment l'effet du conflit dans l'est de la RDC et ciblent injustement une seule partie au processus de paix. Pour sa part, le gouvernement de la RDC a salué la décision des États-Unis d'imposer des sanctions aux forces de défense rwandaises RDF et à 4 de leurs hauts responsables et dénonçant leur implication directe aux côtés du mouvement rebelle M23 dans l'est du pays. Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Comment vous analysez ces sanctions qui touchent non seulement les 4 officiers supérieurs de l'armée rwandaise, mais aussi les forces armées rwandaises RDF?
Ces sanctions constituent en tout cas une avancée majeure
une victoire diplomatique pour Kinshasa. Je le disais donc, une avancée majeure dans la bonne direction, dans le sens où, comme nous l'avons décrié pendant au moins toute l'année, depuis que les initiatives de médiation ont commencé, dont notamment avec l'implication de l'administration Trump, d'une part, on a beaucoup plus observé des mesures d'encouragement. C'était beaucoup plus la carotte et très moins de bâtons. Et là, on a comme l'impression que, avec toute son imprévisibilité, le président Donald Trump est passé plutôt à une vitesse supérieure. C'est une première aussi, il faut le signaler, parce que jusque-là, on avait documenté que des sanctions qui ciblaient notamment des personnalités rwandaises, sans pour autant toucher au système, si je pourrais le présenter en tant que tel. C'est une mesure qui, dans l'ensemble, a pour objectif d'inciter le Rwanda à une bonne attitude. En tout cas, c'est ce qui est repris dans le communiqué de l'OFAC, l'agence américaine qui est en charge de sanctions. Et d'une certaine mesure, je pense qu'il faudrait aussi voir du côté de Kinshasa comment est-ce qu'on passe à l'appropriation de cette mesure. C'est là toute la pertinence de savoir sur quel tableau il faut jouer à quel moment.
Merci.
Parce que oui, les sanctions, obtenir les sanctions, c'est une bonne chose. Mais on a vu que le communiqué qui annonçait les sanctions prévoit aussi des mécanismes de retrait de la liste des sanctions. Et nous tous, nous savons que ce domaine de diplomatie internationale, c'est quand même un terrain sur lequel, au fil des années, le Rwanda a su très bien jouer. Et pendant que ces sanctions-là vont ou on attend en fait que ça fasse mal à l'économie du Rwanda au vu des entités économiques qui sont directement liées à l'armée rwandaise, parce qu'il s'agit ici de l'armée rwandaise en tant qu'entité sous sanction. Mais il faut noter et garder à l'esprit que le régime de sanction dispose d'une période de grâce, si je pourrais le dire comme ça, le winding period, durant laquelle les entités ou personnalités concernés disposent de marge de manœuvre à pouvoir présenter leurs moyens afin de d'être retirés de la liste. C'est vrai qu'il y a des secteurs clés sur lesquels ça va être difficile, notamment la possibilité de transactionner en dollars utilisant le système SWIFT. Mais comme je le disais tantôt, les entités disposent de un mois pour faire appel au niveau de l'OFAC afin soit d'obtenir une lettre de confort dans le cadre des entités non américaines mais qui ont des affaires avec les gouvernements rwandais à travers son armée ou son ministère de défense, et pour les entités ou personnes américaines, ils disposent aussi de cette période pour effectivement faire recours auprès de l'OFAC afin de pouvoir obtenir une licence qui le permette de continuer à transactionner avec le Rwanda. Et donc c'est là que le Congo ne devrait pas se coucher sous ses lauriers, parce qu'il y a encore du travail à faire et tout dépendra de comment est-ce qu'on va s'y prendre.
Merci Marius Mubarama, analyste sociopolitique proche du docteur Mukwege, et vous êtes également président national du mouvement Congo des valeurs, donc COVAL en sigle. Vous également, comment vous analysez ces sanctions américaines contre la RDF et quatre de ses officiers?
Merci pour la question, monsieur Guimaté. Permettez-moi d'abord de remonter l'histoire, en fait de comprendre le contexte dans lequel l'accord de Washington a été signé. Lorsque l'accord de Washington a été signé, c'était le 27 juin 2025. Nous, Mukwege, nous avions pris une position. Nous avions dénoncé d'abord le caractère bilatéral qui entourait cet accord. Nous avions dit que les conflits que nous vivons dans notre pays n'étaient pas seulement un conflit bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Les conflits ont un caractère international. Nous avions décrit le caractère opaque dans lesquels ces accords ont été signés, mais également le manque d'inclusivité. Tous les acteurs majeurs dans ces conflits n'ont pas été pris en compte. Mais également, nous avions décrié la stratégie rwandaise de talk and fight. Pendant que vous êtes en négociation, vous êtes en train de discuter, vous demandez à ce qu'il y ait le cessez-le-feu, mais de l'autre côté, sur le terrain, le RDF et le M23 restaient en activité. Cela présageait déjà que les Rwandais n'allaient pas respecter les accords de Washington. Et en conséquence, nous, Mukwegist, déjà le 27 juin 2025, nous avions insisté à ce qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda. Nous avions demandé à ce que la résolution 2773 soit appliquée dans son intégralité, accompagnée par des sanctions. Vous allez vous rappeler que lorsque la résolution 2773 a été votée, Dr. Denis Mukwege s'était déployé au niveau de l'Union européenne et plusieurs pays de l'Union européenne avaient pris des sanctions contre le Rwanda au point où Kagame avait appelé sa population de serrer la ceinture parce que les sanctions qui tombaient sur son pays commençaient à peser et à produire des effets réels. Mais maintenant, aujourd'hui, les Américains, après ces accords, nous sommes allés après la résolution 2773, nous sommes allés sur la voie de Washington et de Doha qui nous a amenés à piétiner. Aujourd'hui, nous saluons la décision de Washington. Il a constaté que le Rwanda n'a pas respecté les accords de Washington tels que ça a été signé, que nous avions décrit déjà en son temps, nous avions lancé l'alerte. Aujourd'hui, les sanctions qui sont prises par les États-Unis vont dans le sens de faire respecter maintenant la résolution 2773. C'est cette résolution qui demandait le retrait, le cessez-le-feu immédiat sa condition, le retrait du RDF, ce qui est demandé aujourd'hui par les Américains, mais également le démantèlement des administrations parallèles mises en place par Nanga. Et donc cette résolution allait dans le sens de tuer le M23. Parce que si les Rwandais ne continuent pas à soutenir le M23, vous comprendrez par là que le M23 n'allait plus exister. Et donc ces sanctions-là sont nécessaires, mais nous disons qu'elles sont non suffisantes. Pas insuffisantes dans le sens que les sanctions à elles seules permet à ce que le Rwanda soit affaibli, le RDF se retire sur notre territoire, on recouvre notre intégrité, notre souveraineté. Donc ces sanctions vont nous amener à recouvrir notre intégrité, notre souveraineté nationale. Nous allons encore déployer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Mais également, il y a une autre proposition que nous avions donnée, comme pilier pour la sortie de la crise, c'est la tenue de la conférence internationale. Étant donné que le conflit n'est pas seulement bilatéral entre le Rwanda et la RDC, nous avons demandé à ce qu'il y ait cette conférence internationale-là qui pouvait avoir pour objectif de revitaliser l'accord Kadadis Abeba. Parce que pour nous, l'accord Kadadis Abeba était l'accord de l'espoir sur lequel nous devons revenir pour pacifier notre pays.
Voilà, et si il faut parler des possibles retombées de ces sanctions, Henri Pacifique Mayala, et si à la suite de ces sanctions, le Rwanda cessait de soutenir les M23, cette rébellion aurait-elle la capacité de mener seule le combat? Ou est-ce qu'elle peut parvenir à évoluer seule sans le soutien du Rwanda?
Ah ben ça c'est une très belle question, c'est une réflexion intéressante qu'il faudrait mener à tête froide et comme je le disais, il faudrait ici éviter de tomber dans des pièges à faire des raccourcis du genre et sans pour autant mener à débat. Je trouve assez inquiétante l'interprétation de mon co-débatteur dans le sens à dire que ces sanctions vont effectivement nous amener à rétablir l'autorité ou va amener le gouvernement congolais à rétablir l'autorité de l'État sur l'étendue de la République. Je trouve que c'est un raccourci très 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 rapide parce que des sanctions, rétablissement de l'autorité de l'État, il y a quand même du chemin qui demande aussi du travail. Ce qui rencontre aussi votre question, monsieur Guy, parce qu'il tenait à avoir les sanctions d'une part, c'est une bonne chose, mais c'est ici aussi l'heure de la vérité, c'est l'heure du test. Vous avez vu, on a tous suivi sur notamment les réseaux sociaux et entre autres les communications de la rébellion du M23, le même jour où tombaient les sanctions, c'est-à-dire les deux, ils ont encore déployé, en tout cas, des vidéos ont circulé, il y a un communiqué, ça n'a suivi, sur un autre pass-out, un pass-out de plus. Et là, il s'agissait, je crois, de 1500 et quelques autres éléments. Déjà qu'il y a des bruits qui courent, que voilà, ça pourrait peut-être pas être que des recrues rwandais. C'est-à-dire, c'est là aussi qu'il y a le piège. On a eu des réflexions autour du mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Aujourd'hui, on a pratiquement toute la frontière entre le Rwanda et le Congo qui est sous contrôle du M23. S'il y a plus d'hommes qui rentrent sur le territoire congolais, comment est-ce que cela sera déterminé de façon factuelle? S'il y a plus d'hommes qui sortent et rentrent au Rwanda, comment est-ce que cela sera déterminé de façon factuelle? C'est là la question et c'est là l'air de la vérité. Parce que vous vous souvenez, je vous disais l'autre fois qu'il ne faudrait pas nécessairement garder la lentille qui analyserait le M23 comme étant entièrement dépendante du Rwanda. Bien sûr qu'à certaines mesures, et on l'a déjà vu qu'en 2012 avec le retrait du Rwanda, moyennant d'énormes pressions diplomatiques et économiques sur son régime, le retrait de ce soutien à l'époque a été aussi accompagné d'une certaine façon d'une implosion interne du M23. Ça aussi, c'est une dimension sur laquelle il faut revenir, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y a eu aussi des problèmes internes au niveau du leadership du M23 qui a poussé, ou nous a amené en tout cas à son... Bon, démantèlement, c'est difficile à le dire parce qu'ils se sont ressuscités, mais bon, voilà. Aujourd'hui, nous sommes à ce stade où, bien sûr que l'apport du Rwanda au M23 est substantiel, et le retrait du Rwanda devrait déterminer quelle serait l'agence dont serait doté le M23 afin de pouvoir... en finir avec cette crise. Parce que pour moi, la configuration actuelle des affrontements, prenons l'exemple de l'utilisation intensive des drones, c'est une bonne chose d'avoir les drones, ça pose beaucoup de dégâts dans les camps des ennemis, mais c'est loin de récupérer les territoires partout où ils sont aujourd'hui présents. Nous avons vu l'exemple d'Uvira. Il y a eu des exactions qui ont été commises lorsque la ville tombait aux mains des rebelles le 10 décembre, mais les 16 et 18 janvier, lorsque les FRDC et les Ouazalènes reprenaient le contrôle de la ville, il y a aussi eu des exactions, peut-être pas au même titre, mais tout cela reste à déplorer. Donc pour moi, je pense que d'une part, oui, il y a les sanctions, oui, il y a la résolution de Nations Unies 73, mais faire le lien entre les deux, c'est vraiment très important à comprendre quelles sont les interdépendances, de la même façon que nous devrions aussi comprendre quelles sont les interdépendances et les relations entre tous ces différents processus de paix qui ont été engagés. Sinon, on va partir en ordre dispersé. Et oui, on aura acquis ces sanctions, mais au lieu de réfléchir, par exemple, à qu'est-ce qui arrive si effectivement on se rend compte que, voilà, oui, la rébellion a eu le temps de se constituer, parce que M. Guy, ça fait plus d'une année qu'il contrôle les frontières. Ça fait une année qu'ils extraient des minerais, ça fait une année qu'ils taxent les citoyens dans les zones qu'ils contrôlent. C'est un capital financier qui finance la guerre, qui finance les recrutements, qui finance les troupes, qui leur a permis de s'organiser. Donc je pense qu'il faudrait garder la tête froide, et comme l'a recommandé mon co-débatteur, le besoin du dialogue, il demeure. Mais encore que le format du dialogue, je ne serais pas très enthousiaste de retourner sur le format d'Addis Abeba, parce que si depuis 2013 on n'a pas vu les résultats de ce cadre d'accord, il y a des raisons, il y a des limites qui jusque-là n'ont pas été adressées, n'ont pas été améliorées.
Merci.
Pour moi, je pense qu'il y a une chance ici, il y a une opportunité ici, que la majeure partie des acteurs sociopolitiques impliqués dans ce conflit continuent de soutenir ce cadre de dialogue national, aiderait tant soit peu à plus ou moins fédérer les opinions autour de la table et accorder une chance à la paix.
Merci Marius Mbalama. Nous continuons à parler, n'est-ce pas, des possibles retombées de ces sanctions. Et à votre avis, même si l'armée rwandaise décidait de se retirer de la RDC, est-ce qu'elle peut cesser de soutenir les M23?
D'abord, il faudra rappeler que plusieurs rapports existent qui qui ont retracé les soutiens significatifs que le Rwanda apporte au M23. Et ça, c'est soutien du M23 parce qu'ils sont, ils financent, ils donnent les moyens financiers, ils donnent les moyens logistiques et ils donnent le capital humain. Trois éléments nécessaires pour mener une guerre. Si aujourd'hui, à travers ces sanctions, on arrivait à affaiblir le Rwanda, parce que les revendications que porte la M23, ce ne sont pas les revendications congolaises, ce sont les revendications rwandaises. Kagame l'avait ainsi dit, que si nous voudrions récupérer le Rwanda et le Goma et la ville de Bukavu, la RDC doit d'abord commencer par résoudre ses problèmes en RDC. Ouais. Et donc les revendications qu'ils ont sont les revendications rwandaises. Et si on affaiblissait le Rwanda, on appliquait la résolution 2673 dans son intégralité, du coup, l'M23 tombe de soi-même. L'M23 tombe de soi-même, il n'y aura pas de discussion. Et par là, nous l'avions vu à Uvira lorsqu'on a intimé l'ordre au RDF de se retirer à Uvira. Du coup, l'État a rétabli son autorité. L'armée est revenue dans la ville d'Uvira. Et donc, ces sanctions sont nécessaires. Mais nous disons qu'on doit aller au-delà pour que la résolution 2673 soit respectée dans son intégralité. Ça, c'est un élément. Je disais tantôt par rapport aux retombées, si le 1-23 pourra continuer.
Oui, si le Rwanda s'est retiré de la RDC, est-ce qu'elle peut cesser de soutenir le 1-23?
Évidemment, parce que vous savez que le Rwanda, c'est un pays très très fragile. Il vit au dépens des aides internationales. Si ces aides lui sont coupées, si le Rwanda est coincé sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan militaire, le Rwanda ne pourra pas résister. Il va automatiquement cesser ses soutiens. Et du coup, l'M23 va disparaître de soi-même. Il y a un élément très majeur qui taraude mon esprit. Parce que vous savez que les États-Unis, c'est un bailleur majeur des opérations des Nations Unies par rapport au maintien de la paix. Les sanctions des États-Unis devraient normalement conduire les retraits aussi du Rwanda dans toutes les opérations dans le monde du maintien de la paix. Parce qu'une armée, le RDF, qui est cité dans plusieurs rapports mapping par rapport aux violations massives des droits de l'homme en RDC, aux crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, dont le Rwanda est cité. Il y a les rapports mapping qui existent, il y a différents rapports des experts des Nations Unies qui existent. Une armée comme celui-là ne doit pas faire partie des opérations de maintien de la paix ailleurs, pendant qu'en RDC, cette même armée est en train de violer les droits de l'homme. Et donc, ça devrait être retiré parmi les contribuables des contingents des Nations Unies. Parce que c'est vraiment un paradoxe flagrant que le Rwanda continue à opérer parmi les contingents des Nations Unies.
Merci. Henri Pacifique Maïla, on continue à parler, n'est-ce pas, des retombées de ces sanctions. On se rappelle qu'en 2013, les sanctions contre le Rwanda avait précédé la défaite du M23, ancienne formule. Peut-on dire que ces sanctions que viennent de prendre les États-Unis contre le Rwanda pourraient être le début, n'est-ce pas, d'un processus qui pourrait aussi aboutir à la fin de la guerre entre la RDC, entre la FRDC et le M23?
Oui, dans une certaine mesure, on pourrait bien le dire, parce que comme je le disais tantôt, c'est difficile aujourd'hui pour autant les individus que encore plus un gouvernement de se voir limité dans ses capacités à pouvoir transactionner avec le dollar américain. J'ai tantôt mentionné le système SWIFT et tout ce qui va avec. Mais je continue d'en appeler sur une réflexion froide. C'est une victoire, mais qui ne devrait pas signifier que le boulot est accompli. Il y a cette disposition dans le régime des sanctions qui accorde aussi d'exemptions. Et j'ai apprécié que mon co-débatteur utilise un conditionnel, parce que à ce stade, on n'en est pas encore là. On n'en est pas à ce stade où le Rwanda, par exemple, ne sera pas autorisé à garder ses troupes au sein des missions de maintien de la paix. La question, bien évidemment, qui va se poser, comment va procéder les Nations Unies à pouvoir payer le contingent rwandais? Et là encore, il faudrait revoir les dispositions de ce régime des sanctions concerne le gouvernement américain, mais prévoit déjà que les institutions internationales d'une certaine façon, sont exemptés de cette contrainte. Et donc, quelque part, il y a encore du travail à faire pour la diplomatie congolaise, à continuer à appuyer davantage, parce que, tenez-vous, on est loin de ce qui s'est passé en 2012. Là, c'était la Banque mondiale qui coupait énormément de millions de dollars au Rwanda, et je suis d'accord avec mon co-débatteur que le Rwanda reste un pays fragile, et que oui, si l'aide au développement venait à lui être coupée, ça lui fragiliserait davantage. Mais on n'en est pas là encore. Et pendant que c'est une avancée dans la bonne direction, il y a encore du travail à faire à pouvoir notamment contourner ces prédispositions qui laissent des marges de manœuvre autant au Rwanda qu'aux institutions ou entités qui sont engagées financièrement avec lui à pouvoir soit obtenir cette licence ou une lettre de confort qui les autoriserait à continuer du business avec le Rwanda. Et c'est la partie du travail qu'il ne faudrait pas ou qu'il ne faudra pas que Kinshasa puisse négliger, sinon ça nous ramène aux cases, à la case départ. Ce statu quo a assez duré, et si déjà les grandes rentrées que nous pouvons considérer par exemple comme étant le déploiement des troupes rwandaises au Mozambique dans le cadre de la sécurisation des opérations de Total à Cabo Delgado ou de la répression de l'avancée islamiste, ou son déploiement dans le contingent en République centrafricaine, que ce sont des entités qui ne vont pas, en tout cas selon ma lecture et ma compréhension de ces dispositions des sanctions telles qu'elles ont été présentées, si ces opérations ne sont pas directement touchées, vous comprendrez avec moi que oui, le Rwanda sera d'une certaine façon secoué, mais peut-être pas assez ou peut-être pas au même titre qu'en 2012. Merci. Et il faudrait aussi tenir que le Rwanda de 2012, ce n'est pas la même le même acteur que nous avons en face en 2016. On a vu comment est-ce que le Rwanda a su réussir à gérer, en tout cas sur la scène internationale, notamment sa réputation. Et aujourd'hui, je pense que ça aussi, ça touche effectivement à sa réputation qui merci, est parmi, en tout cas, ses atouts aujourd'hui. Mais encore une fois, je le répète, il y a du travail à faire.
Il y a du travail à faire, comme vous le dites, Marius Mobalama. Nous allons écouter les avis des auditeurs qui veulent intervenir, n'est-ce pas, par rapport à cette thématique. Et vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, c'est Patient Paul Ngoï.
Patient Paul Ngoï, depuis Kinshasa à Mongafula. Le régime de Kigali semble ne pas concerner à toutes ces sanctions, à mon avis. Plus elles sont prises contre les responsables et dirigeants, plus à leur tour renforcent les troupes dans la partie est et continuent à occuper quelques localités et franchissent certaines étapes, à mon humble observation, qualifiées de la zone rouge. Et ces sanctions auraient eu effet si tout l'Occident parlait un même langage face à la menace persistante en violation des droits internationaux des frontières. Du fait qu'elles sont prises à gauche par ceux qui veulent voir le Rwanda quitter définitivement le territoire congolais en respectant sa souveraineté, à droite, d'autres continuent à appuyer l'instabilité dans la partie orientale en utilisant les pays agresseurs, bien qu'en connivence avec certains de nos compatriotes à servir les multinationales au pillage de nos ressources minérales.
Marie Soumbalama.
La question de notre auditeur, elle est trop large. Sinon, je voudrais d'abord lui rassurer que les sanctions qui ont été prises par les États-Unis ne concernent pas seulement les quatre généraux ou les quatre officiers, mais également l'armée dans son ensemble. Elle est frappée par les mêmes sanctions. Ça veut dire que les aides américaines dans la coopération militaire seront coupées. Comme je disais,
évidemment, si au-delà de cette période d'un mois, la période qui est donnée, n'est-ce pas, au parti de pouvoir déposer les recours, si au-delà de cette période, les Rwandais, n'est-ce pas, ne déposaient pas ou ne saisissaient pas les instances qui doivent prendre les dernières décisions, et donc les Rwandais peuvent être sanctionnés, n'est-ce pas?
Les Rwandais peuvent être vraiment sanctionnés, c'est pourquoi nous appelons aussi à l'Union européenne. de suivre la même voie que les États-Unis, que les sanctions soient prises. Vous savez qu'au niveau de l'Union européenne, il y a eu un règlement qui a été voté, qui a été aussi diligenté par Dr. Denis Mukwege, qui interdisait la commercialisation et l'exploitation des matières premières venant des zones de conflit, pour le cas de la RDC. À ce moment-là, les minerais devraient être étiquetés, et les Rwandais allaient souffrir, n'est-ce pas, d'exporter le minerai qu'ils puissent dans notre pays. Et donc, il faudra que ces sanctions-là soient, n'est-ce pas, coordonnées, qu'elles soient renforcées, que l'Union européenne, la France, la Pologne, la Grande-Bretagne emboîtent les pas aux Américains pour asphyxier davantage les Rwandais, afin que nous puissions espérer que la RDC pourra recouvrir d'abord son intégrité. Parce qu'il faut le savoir, la cessation de guerre entre la RDC et les Rwandais ne nous augure pas la paix dans notre pays. D'autant plus que le conflit, comme je l'ai dit tantôt, il est à la fois régional et international. Sur notre territoire, il y a les UPDF et les ADF Nalu. Il y a aussi la rébellion burundaise vers Uvira. Il y a les groupes armés qui pillent ici et là, qui sont soutenus par les multinationales parce qu'ils ont besoin d'avoir accès illicitement aux matières premières. C'est ainsi que nous avions appelé, n'est-ce pas, à la tenue d'une conférence internationale sur la paix en RDC, où sur la table, il y aura tous les pays membres de la CIRGEL, les organisations multilatérales, mais également sur la table, il faudra encore ajouter aussi les opérateurs économiques du secteur privé, comme l'a fait que les opérateurs économiques étrangers, et leur montrer leur responsabilité, n'est-ce pas, dans le rétablissement de la paix dans notre pays. Cette conférence aura, comme je l'ai dit, comme objet de revitaliser l'accord Addis Abeba, parce qu'au moins à Addis Abeba, quand bien même au co-débatteur a semblé relativiser cette question, chaque partie qui était sur la table avait pris des engagements. Et si cet accord-là n'a pas produit des effets positifs tels que ça a été promis, c'est parce que toutes les parties n'ont pas respecté leurs engagements. Ouais. Et surtout, j'insiste sur les engagements pris par la RDC, parce que la RDC devrait rétablir son autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, ça pose un problème, devrait réformer de l'armée, devrait travailler sur le développement économique et s'étendre sur les infrastructures de base, devrait travailler sur la justice. Et à Addis Abeba, on a recommandé, n'est-ce pas, la justice traditionnelle. Parce qu'il ne faudrait pas que nous allions vers une paix tout en ignorant les attributs de la justice. La paix qui n'est pas construite sur la justice, n'est-ce pas, le parfait qui dégage dans l'avenir, c'est toujours un parfait de belligérants. Ça donne dans l'esprit des Congolais que pour accéder au pouvoir, il faut prendre les armes contre sa population et par après, on va négocier avec vous, vous allez avoir l'amnistie pour en faire réintégrer le pouvoir.
Henri-Pacifique Mayala, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo, c'est Paulin Senga.
Ce maître Paulin Sengangabo, je vous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Après une lecture minutieuse des sanctions américaines contre certaines personnalités militaires du Rwanda, moi je pense que les sanctions entendues par les peuples congolais visaient l'État rwandais et non des individus rwandais. Les sanctions d'État à l'État. Nous savons tous que les sanctions d'État à individus se limitent aux avoirs et aux visas. Quand on parle de Washington, c'est l'État américain. Quand on parle de Kigali, c'est le gouvernement rwandais. Là, ce n'est pas l'État américain qui frappe l'État rwandais. C'est l'État américain qui frappe des individus rwandais qui peuvent ne pas avoir des intérêts financiers et matériels aux États-Unis ni l'intention d'y séjourner. C'est comme si, par réciprocité, l'État rwandais prenait des sanctions à la contre de Marc Rubio. Ce sera sanction sans effet, naturellement. L'État congolais a gagné quoi après la sanction? Merci beaucoup.
Henri-Pacifique Mayala.
Alors, l'État congolais a gagné quoi après la sanction? J'avoue que, comme je le disais, c'est une avancée dans la bonne direction. Mais peut-être aussi préciser à notre compatriote que les entités qui sont concernées par ces sanctions sont les entités liées à l'armée rwandaise. Je donne un exemple tout bête. Une petite entreprise au Rwanda qui est dans le tourisme et qui n'a aucune relation directe ou indirecte avec un membre de l'armée rwandaise, eh ben, les Américains vont continuer à venir visiter les gorilles de notre parc national du Virunga qui ont traversé vers le Rwanda. Donc, il faudrait être plutôt assez équilibré dans la célébration, autant dans l'interprétation de ces sanctions. Elles sont salutaires, comme je le disais. On est parti des sanctions ciblées des individus vers des sanctions qui touchent l'armée rwandaise, et comme vous le savez, le Rwanda a un état autoritaire, le pouvoir est centré autour de l'armée qui relie le pouvoir ou le monopole de la violence avec le monopole du contrôle économique. C'est dans ce sens-là que ça bénéficie effectivement à Kinshasa, parce que lorsque vous regardez toute la panoplie des entreprises, pratiquement toutes les entreprises majeures du Rwanda sont ou ont des liens directs ou indirects avec des membres au sein de l'armée rwandaise. Je pense que c'est une bonne interprétation qu'il faudrait autant faire pour les autorités congolaises, autant que pour les citoyens congolais, parce qu'après aussi, je pense que quand je parle du travail qui reste à faire, c'est un travail qui implique non pas seulement les gouvernants, mais aussi les populations. Peut-être, si vous me permettez de placer un mot autour de mon propos concernant le cadre, l'accord cadre d'Addis Abeba.
Allez-y.
Ce que je soulevais, c'est le fait que depuis 2013, en termes d'engagement, les responsabilités ont été attribuées, mais au niveau des engagements qui concernaient les pays de la région, c'est une attribution collective. Il n'y a pas une attribution qui concerne, par exemple, le Rwanda et qui le tient redevable à cet engagement précis-là. Ce qui est aujourd'hui devenu assez flou parce que le Kenya, il n'a par exemple pas le même rôle ou la même implication dans le conflit à l'est du Congo que le Burundi ou le Rwanda ou l'Ouganda. Eh bien, pour ne soulever que cela, donc je pense que on devrait apprendre des erreurs du passé et ne pas recourir à tout ce qui semble être un raccourci facile à viser à une solution qui n'a pas encore prouvé ses preuves. Henri, donc voilà un peu pour moi, je pense que...
Henri Patrick Mayala, s'il faut revenir sur la portée de ces sanctions, vous dites que c'est des sanctions salutaires, mais vous reconnaissez que rien n'est encore accompli. Et à votre avis, parce que vous dites qu'il y a un travail qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être fait par le gouvernement congolais de manière concrète, n'est-ce pas, pour capitaliser cette situation qui lui est favorable?
Alors, je sais un petit... je n'ai pas dit que rien n'est encore fait. Je pense que c'est des gains substantifs. Mais pour moi, je pense que on a vu un Rwanda qui a su nager le méandre de la politique et diplomatie internationale, à pouvoir asseoir son identité, à pouvoir asseoir sa réputation comme étant l'un des partenaires fiables, notamment sur le secteur de la sécurité. Aujourd'hui, la République centrafricaine est déstabilisée en partie grâce aux efforts et contributions rwandaises. Quand on parle de Cabo Delgado, c'est des millions d'euros qui sont investis là-bas et ce sont des intérêts américains mélangés aux intérêts européens, français, qui sont là-bas. Et donc, comme vous le disiez tantôt, il ne faudrait pas s'attendre à ce que le régime de Kigali croise les bras. Et là, comme je l'ai présenté tantôt, la sanction n'est pas définitive. La sanction ne tombe pas sans appel, sans manœuvre de recours. Et si Kinshasa pense avoir accompli tout le travail et que voilà, on peut croiser les bras, c'est là que j'en interpelle ceux qui chargent de conduire notre diplomatie, fournir encore davantage, d'engager là où il faut, c'est-à-dire à fermer ces marges de manœuvre dont jusqu'à là dispose le Rwanda à pouvoir adoucir ou contourner ces sanctions-là, et ce qui ramènerait d'une certaine façon à sa subsistance et sa subsistance économique, c'est-à-dire encore son implication continue dans le soutien au M23. Donc, si je dois me résumer, je pense que c'est une avancée majeure dans une bonne direction, mais qui nécessite un accompagnement substantiel à pouvoir contrecarrer ou en tout cas des actions préemptives à ce que pourrait faire le Rwanda pour contourner ou essayer d'adoucir ces sanctions. Et surtout, lorsqu'on voit ce qui se suit, la guerre dans le Moyen-Orient, ça risque de créer un vide ou le détour de l'attention américaine des dossiers de la région ou la sous-région des Grands Lacs. Et comme on le sait, historiquement, c'est à chaque fois qu'il y a une certaine inattention ou un détournement d'attention que le Rwanda a d'une certaine façon agi et essayé de progresser ou avancer les pions de son intérêt. Ça, c'est depuis 96. Et on a vu même avec la chute de Goma et Uvira, je veux dire de Goma et de Bukavu lorsqu'aux États-Unis il y avait passation de pouvoir. Donc il y a aussi cette crainte-là que l'administration Trump soit assez occupée par les dossiers du Moyen-Orient et que voilà, les dossiers du Congo avec le Rwanda soient plus ou moins un peu oubliés. Si le Congo n'aménage pas davantage d'efforts, eh ben tout ce travail, tous ces gains jusque-là cumulés n'auront malheureusement pas servi à grand-chose. Parce que les populations dans les zones occupées n'auront pas recouvré la paix et je pense que la finalité à tout ceci, tant qu'on n'aura pas la paix, tant qu'on n'aura pas les déplacés retournés dans leur famille, les sanctions n'auront pas porté leurs résultats.
Merci Marius Mbarama. Ces sanctions sont tombées aussi parce que l'accord de Washington a été violé par les Rwandais. On peut se permettre de dire aujourd'hui que la stratégie d'occuper la ville d'Uvira après ces accords de Washington était un mauvais calcul de la part du Rwanda.
Moi, je m'accroche beaucoup plus sur la résolution 2773.
Non, répondez à ma question.
C'est ça. Déjà, les Rwandais ne respectent pas des engagements pris ici et là. La résolution 2773 avait demandé à ce qu'il y ait cessation des hostilités. Cesser le feu immédiat, sa condition. Les Rwandais n'avaient pas respecté. L'accord de Washington avait parlé de cesser le feu. Les Rwandais n'a pas respecté. Et donc, aujourd'hui, comme mon condébattant venait de le dire, les sanctions sont des mécanismes qui accompagnent la résolution 2773. Et le gouvernement congolais, à travers sa diplomatie, devrait mener alors un combat fort pour que cette résolution-là soit respectée, soit appliquée, afin que nous puissions décrocher le retrait immédiat et sa condition sur le sol congolais du RDF. Ça, c'est un élément. Le démantèlement, n'est-ce pas, des administrations parallèles mises en place par le 1-23 AFC, mais également le cessez-le-feu immédiat et sa condition. Là, on peut dire que nous sommes maintenant sur la bonne voie de la paix. Les sanctions, je l'ai dit à mon introduction, que nous saluons, mais elles n'étaient pas suffisantes pour assurer à ce que nous puissions aller sur la voie de la paix. Et donc, nous appelons à tous les Congolais, nous appelons au gouvernement congolais de s'approprier, n'est-ce pas, cette résolution-là, afin que cette résolution puisse nous amener d'abord à recouvrer notre intégrité et notre souveraineté. Mais également, nous, Mukwegiste, nous conseillons au gouvernement de mener un lobbying afin que la conférence internationale sur la paix en RDC soit tenue, pour que nous puissions toucher les causes profondes du conflit. Et afin que les entreprises multinationales qui ont besoin, n'est-ce pas, des matières stratégiques que nous avons dans notre pays, qui sont indispensables pour la transition énergétique dans le monde, puissent négocier avec ces entreprises directement. Mais également, je vais citer par là, les dialogues demeurent aussi nécessaires. C'est seulement qu'il n'est pas suffisant parce que les deux éléments précédents, dont j'ai dit, conditionnent la tenue d'un dialogue. Parce qu'une fois qu'on arrive, une fois la résolution 2773 est respectée, le Rwanda est retiré, nous allons considérer que le problème qui reste au Congo, c'est un problème entre Congolais. Ouais, et que les autorités, certaines autorités congolaises ne sont plus sous le joug du Rwanda. Et là maintenant, nous pouvons maintenant parler entre nous, si c'est que nous pouvons faire tous les problèmes liés aux élections, liés à la gouvernance, liés à la réforme de l'armée, liés à l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire, liés aux infrastructures, on peut maintenant discuter ça entre les Congolais sans qu'il y ait une influence étrangère, donc une influence rwandaise.
Voilà, je demanderai à vous de suivre cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga dans le Kasaï central. Comme ça, vous allez réagir. Hein. On va commencer par Henri Pacifique Mayala. On écoute Hervé Kasonga qui nous appelle depuis Kananga.
Hervé Kasonga, depuis Kananga, dans la province du Kasaï central. Je salue l'engagement manifeste des États-Unis. Cependant, force est de constater que les sanctions récemment imposées à l'encontre de l'armée rwandaise et des quatre de ses officiers demeurent largement insuffisantes. Elles apparaissent comme de mesures périphériques frappant les exécutants complices, mais épargnant le principal instigateur des violations graves des droits humains documentées par les Nations Unies, qui est bien sûr le président rwandais Paul Kagame. Dès lors, une interrogation s'impose. Pourquoi la communauté internationale s'abstient-il de sanctionner celui qui incarne la stratégie hégémonique rwandaise? Cette omission nourrit le soupçon d'une complicité tacite qui fragilise la crédibilité du droit international et met en lumière le double standard dans la gestion des crises africaines. Si l'on veut réellement mettre fin à l'impunité et restaurer une paix durable en RDC, il est impératif que les sanctions cessent d'être symboliques et qu'elles visent enfin le centre de gravité du problème.
Henri Pacifique Mayala.
Ce que je dirais à mon compatriote Hervé, c'est que il faudrait aussi se garder de penser que ces sanctions font du Rwanda Cuba. Écoutez, le Rwanda ne devient pas ennemi des États-Unis. Le Rwanda reste un pays avec lequel les États-Unis disposent de partenariats, collaborations dans d'autres domaines, un secteur essentiel comme les sports. On a vu récemment comment Paul Kagame, le président rwandais, a été assez agressif à établir des partenariats dans le secteur du basketball NBA, pouvoir promouvoir l'image de son pays. Donc, bref, pour moi, je pense que oui, ça nous ramène à ce travail que devrait faire le Congo, que devrait faire la diplomatie congolaise. La part du travail qui a déjà été abattue est énorme, mais pas encore assez suffisant. Il y a une dernière marge qu'il faut accomplir, et c'est là que on devrait rallier à cette action des États-Unis tous les autres acteurs bons décideurs ou puissants de ce monde, à pouvoir rallier le pas aux États-Unis pour ramener le Rwanda à une attitude qui concourt à la construction de la paix. Je le répète encore, comme je le disais, les sanctions ne tombent pas de façon punitive, mais à pouvoir encourager une attitude constructive, comme le communiqué de l'OFAC le disait tantôt.
Merci. Marius Mbalama, votre réaction suite à rapport à cette réflexion de l'auditeur qui nous a appelé depuis Kananga?
Oui, je dirais que les sanctions elles-mêmes ne suffisent pas. Ouais. C'est pourquoi nous, Mkwagiste, il y a certaines lignes que nous ne pouvons pas franchir. Chaque jour, Dr. Denis Mukwege plaide pour qu'on puisse implémenter la justice transitionnelle dans notre pays, qui sera accompagnée par un tribunal ad hoc, du genre tribunal pénal international pour la RDC. Parce que plus tous ceux qui ont pris les armes, qui sont cités dans le crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide, ne sont pas poursuivis, ne sont pas jugés pour les dégâts commis en RDC, c'est là continuer à donner à d'autres personnes l'image pour atteindre un tel poste ou telle responsabilité dans le pays, il faut prendre les armes et tuer son peuple.
Voilà,
et
donc, nous sommes à la fin de l'émission, vous pouvez donner votre mot de la fin.
Et donc, nous appelons à ce que ce tribunal, la justice transitionnelle soit instaurée. Nous avons besoin de connaître la vérité, nous avons besoin à ce que la justice soit faite, nous avons besoin à ce qu'il y ait réparation, mais également qu'ils puissent obtenir, n'est-ce pas, la garantie des non-répétitions. Et cela, ça peut permettre à ce qu'il y ait une réconciliation. Mais une réconciliation sans justice, je ne pense pas que ça pourra nous amener sur la voie de la paix.
Henri-Patrick Mayala, votre conclusion, comment vous entrevoyez la suite de la situation sécuritaire dans l'Est et la RDC après ces sanctions américaines contre le Rwanda? Ça sera votre conclusion.
Après les sanctions américaines contre l'armée rwandaise, il faudrait que la diplomatie congolaise s'investissent encore davantage à pouvoir notamment, non seulement rallier les autres partenaires au Congo et puissants du monde, à rallier la décision et la posture des États-Unis pour que la paix revienne. Et la paix ne devrait revenir que si et seulement si tout le monde revient à la table, y compris ceux qui ont choisi la voie des armes, comme on l'a dit. Oui, le retrait du Rwanda sera une chose, l'évaluation sur la capacité du M23 à survivre de lui-même en est une autre. C'est là, ça devrait au mieux passer toujours par des voies diplomatiques, entre autres le dialogue national.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Henri Pacifique Mayala et Marius Moubalama, qui avaient accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission. Merci aussi aux auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi et à David Mugisa qui l'ont réalisé, et à André Mongou qui était à la technique, à la présentation, Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.